Chapitre 13. L'appartement qu'on avait donné à Hélène et à son élève était celui qu'avait occupé Guiscard du temps que celui-ci travaillait, ou tout au moins devait travailler, et qu'il avait abandonné quand ses parents avaient, de guerre lasse, renoncé à lui faire continuer ses classes. Il était donc resté à peu près dans l'état où il se trouvait quand M. le comte l'habitait. À Adélaïde, on avait donné la chambre de M. le comte, à Hélène, celle de l'abbé. Et dans la salle d'études, on avait laissé les tables noires, les cartes et les livres classiques qui avaient été peu usés par Guiscard. Bien entendu, depuis qu'il avait été libéré, Guiscard n'était jamais entré dans cette salle d'études qu'il appelait la chambre des tortures, ce qui n'était vraiment pas mal trouvé, mais seulement si on l'appliquait à ce qu'avaient enduré là ses professeurs, et non à ce qu'il avait enduré lui-même, car il n'en avait jamais pris qu'à son aise, en garçon qui est au-dessus de ces niaiseries-là. Le lendemain du jour où il était revenu de Paris, Hélène fut surprise de le voir arriver comme s'il cherchait quelque chose. « Comment, tu viens ici ?» dit Adélaïde d'un air mutin et avec un sourire narquois. « Bonjour, petite. »«
Bonjour, grand. »
Il avait salué Hélène timidement.
« Tu as envie de travailler avec nous ?» continua Adélaïde. « Tu arrives bien, tu vas m'aider. Il s'agit du participe passé employé dans les temps composés des verbes actifs. Tu sais, si Dieu nous a distingués des autres animaux, c'est surtout par le don de la parole. »
Si Guiscard était un cancre, il n'était pas un imbécile. Il vit que sa petite cousine voulait se moquer de lui. Alors il se mit à sourire en regardant Hélène.
« Comme cette petite prouve bien la justesse de cet exemple, » dit-il.
Adélaïde resta un moment sans comprendre, puis tout à coup elle s'écria. « Ah, le méchant cousin !»«
Je vous demande pardon de vous déranger, » dit Guiscard s'adressant à Hélène. « Je venais prendre un livre. »
Depuis qu'il était entré, il était resté les yeux fixés sur elle. Il ne les abaissa qu'en lui adressant la parole directement. « Quel livre veux-tu ? » demanda Adélaïde, qui s'est élevée.
« Un dictionnaire. Lequel ?
Celui qui est relié en cuir vert. » Hélène ne put empêcher un sourire de plisser ses lèvres en entendant ce mot qui lui rappelait le Plutarque vert et le Xénophon jaune dont avait parlé le père Bonjean.
« Alors cherche-toi-même, » dit Adélaïde malicieusement.
Mais après que Guiscard eut trouvé son dictionnaire vert, il ne parut pas disposé à s'en aller. Il tourna dans la salle, regarda les chiffres tracés à la craie sur le tableau noir, puis, venant à Adélaïde, qui avait repris sa place, il examina le devoir qu'elle était en train de faire.
« Sais-tu que tu n'écris pas trop bien ? » dit-il.
Elle se retourna, et avec une moue.
« Veux-tu que nous composions ? » demanda-t-elle.
« Oh, moi, un homme ! » !»«
Avec moi, une petite !»
Il fit encore trois ou quatre tours dans la salle, comme s'il ne pouvait se décider à partir, regardant Hélène à la dérobée, puis enfin, il se dirigea vers la porte.
« Je vous le rapporterai tout à l'heure, » dit-il. « Ne te gêne pas, » répondit Adélaïde. « Ce n'est pas du vert que j'ai besoin, c'est du jaune. »
Et en souriant avec espièglerie, elle se remit au travail. Puis, tout à coup, levant la tête,
« Alors, » dit-elle, les animaux qui n'ont pas la parole sont plus animaux que ceux qui l'ont. »
Il y avait 10 minutes à peine que Guiscard était sorti quand M. de Courtemer entra à son tour dans la salle d'études. À la révérence d'Hélène qui s'est élevée, il répondit par un bonjour gracieux, puis allant à sa nièce, il l'embrassa.
« Quelques brochures à prendre, » dit-il en s'adressant à Hélène comme s'il voulait s'excuser.
Et ouvrant une armoire fermée à clé, prit 2 brochures à couverture rose sur une pile d'au moins 50. Hélène, qu'il suivit des yeux, lut le titre de cette brochure, le canon sylvestre.
« Eh bien, » dit-il à Hélène, « cet enfant est-elle avancée ?»«
Avancée, non, monsieur le marquis, mais intelligente et pleine de bonne volonté. Avec cela, docile.
Alors cela ira.
J'en suis convaincu. Elle fera ce qu'elle voudra, si elle peut être attentive et appliquée.
Comment ne le serait-elle pas ?
Comment ne le serait-elle pas ? » Et monsieur de Courtemer fixa sur Hélène un sourire qui disait clairement qu'avec une femme comme elle, on ne pouvait pas ne pas être attentif. Puis, souriant toujours en montrant ses dents blanches et les narines dilatées, il resta à la regarder si attentivement qu'elle éprouva un moment de confusion. Mais elle se raidit contre cette émotion ridicule.
« Si vous le permettez, » dit-elle, « nous allons continuer. »«
Comment donc ?
Mais c'est moi qui vous en prie. Je serais bien aise d'ailleurs de voir comment cette petite travaille. »
Si Hélène avait espéré faire fuir le marquis, elle s'était trompée. Il s'installa carrément, et il la regarda dicter. Puis, quand la dictée fut finie, il l'écouta procéder aux corrections. Bien qu'elle ne leva pas les yeux, elle sentait le regard de la veille posé sur elle. Allait-il donc rester là pendant toute la leçon? Elle ne savait plus trop ce qu'elle disait. Tout à coup, il s'approcha de la table de travail d'Adélaïde et, prenant une plume, il écrivit quelques mots sur le titre d'une de ses brochures. Puis, l'attendant à Hélène, « Vous êtes exposé à entendre parler ici du canon sylvestre, car on en parle beaucoup. Cela vous mettrait peut-être mal à l'aise de ne pas savoir ce que c'est. Voilà qui vous évitera cet ennui, cette brochure que j'ai le plaisir de vous offrir. » Et il tendit l'exemplaire grand ouvert à Hélène pour qu'elle vît bien la dédicace dont il lui faisait l'honneur. Elle voulut le remercier, mais elle s'en acquitta mal. « Ce n'est pas une œuvre technique, » dit M. de Courtemer, « ni une œuvre d'écrivain de profession, mais simplement les règles du beau appliquées à la nature et exposées à la bonne franquette. Ne vous attachez qu'aux idées. » Et il sortit. Ce ne fut pas Adélaïde qui manqua d'attention pendant la fin de la leçon, et si l'élève avait osé, elle aurait pu plus d'une fois reprocher sa maîtresse d'être distraite. Au déjeuner, Madame de Courtemer annonça qu'elle allait partir pour Condé, où elle avait affaire, et elle demanda à son fils de l'accompagner. Mais celui-ci refusa, il avait à écrire, il resterait au château. « Vous ferez votre promenade seule aujourd'hui, mademoiselle, » dit la marquise à Hélène. « Et où se fait cette promenade ?» demanda le marquis. Ce fut Adélaïde qui répondit. « Nous changeons tous les jours, mais aujourd'hui nous devons aller à la pierre levée et revenir par le poteau de l'épargne, n'est-ce pas, mademoiselle ?» « Et vous, monsieur le marquis, que faites-vous aujourd'hui ?» demanda madame de Courtemer à son mari. « J'irai à la vente du désert, voir où en sont les ouvriers. » Le désert est un triage de la forêt opposé à celui de l'épargne et à deux grandes lieues de celui-ci. Aussitôt après le déjeuner et en sortant de table, tout le monde se sépara. La marquise pour monter en voiture, le marquis pour s'en aller au désert, à pied, accompagné de son chien favori, un superbe épagneul noir. Guiscard pour se retirer chez lui et écrire, et Hélène avec Adélaïde pour prendre la route de la pierre levée. Bien que cette promenade qui suivait le déjeuner fût une récréation, c'était à coup sûr le moment de la journée où Adélaïde, quand Madame de Courtemer ne les accompagnait pas, apprenait le plus de choses utiles, car tout ce qu'elle rencontrait était matière à leçon. Une herbe, un nid, un insecte, un nuage, un caillou, une branche. Et cette leçon se faisait simplement, amicalement, en s'amusant. Hélène disant ce qu'elle savait, l'enfant interrogeant et faisant ses réflexions, les interrompant pour se mettre tout à coup à courir si l'envie lui en passait par l'idée, puis les reprenant bientôt. Elles étaient parvenues à peu près à moitié chemin de la pierre levée, ayant pris par la prairie, ce qui allonge la route, lorsqu'elles aperçurent de loin, assis sous un arbre, un grand jeune homme qu'elles auraient cru l'une et l'autre être Guiscard, s'il n'avait pas laissé celui-ci au château en train d'écrire. « Comme c'est drôle la ressemblance !» s'écria Adélaïde. Quelques pas de plus leur montrèrent que ce n'était point seulement une ressemblance extraordinaire, c'était bien Guiscard. Il s'était levé, et il venait au-devant d'elle de son grand pas nonchalant. Son visage était rouge comme celui de quelqu'un qui a marché vite. « Comment, tu n'es pas à écrire ?» cria Adélaïde. « Non, j'ai été pris de mal à la tête et je suis sorti pour me secouer un peu. C'est un hasard de vous rencontrer. » Et tout de suite il se mit à marcher à côté d'Hélène, sans parler, sans même la regarder, comme s'il lui suffisait d'être près d'elle. Hélène ne parut pas faire attention à lui, et elle continua son entretien avec Adélaïde. Il y avait à peu près 10 minutes qu'il les accompagnait ainsi, silencieusement, fouettant les herbes de son bâton, lorsqu'ils arrivèrent à un carrefour en plein bois, où ils devaient prendre un chemin qui coupait à angle droit celui qu'ils avaient suivi jusque-là. À ce moment, un épagneul noir accourut au-devant d'eux joyeusement en aboyant et sauta autour de Guiscard. « Tiens, Black !» s'écria Adélaïde. Puis, comme elle était de quelques pas en avant et qu'elle tournait le carrefour avant Hélène et Guiscard, elle poussa un cri « Mon oncle !» En effet, c'était M. de Courtemer qui se trouvait là, assis sur un banc en homme qui se repose ou qui attend. Quand le marquis aperçut son fils et quand Guiscard aperçut son père, il y eut une sorte de coup de théâtre, et le jeune homme, qui manquait de l'assurance que donne l'âge ou le monde, resta stupide. Monsieur de Courtemer s'était remis plus vite, et, prenant les devants, il avait expliqué sa présence en ce lieu, qui n'était pas du tout sur le chemin du désert. Il s'était souvenu qu'il avait besoin du côté de l'épargne, et en route pour le désert, il avait changé de direction. Puisqu'ils allaient tous à l'épargne,
Il était naturel qu'ils continuassent leur promenade ensemble, ce qui eut lieu.